Détour, Madeleine Caboche.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Julie Gilbert est dramaturge et scénariste. Elle collabore à la réalisation des films du cinéaste Frédéric Chauffat. Pour mémoire, dernier long métrage signé par les deux Mangroves en 2011. Ils sont devenus reporters, l'espace d'un détour radiophonique. Voyage aujourd'hui à l'extrémité du nord du Maroc vers la cinquième ville du pays, Tanger. Tanger, ville internationale qui en a vu passer du monde, longue histoire de colonisation. Phéniciens, romains, arabes, portugais, français et espagnols. Hier, Tanger international, capitale culturelle. Aujourd'hui, portrait de ceux qui arrivent à Tanger, les yeux rivés sur l'Europe. L'Europe à 14 km, puisque la côte espagnole est juste en face. Tanger, les migrants, deuxième chapitre. Julie Gilbert et Frédéric Chauffat, rebonjour à vous deux. Aujourd'hui, le thème de la migration, un thème qui est présent dans vos travaux précédents, Julie.
Oui, exactement. On a travaillé aussi bien dans nos films que dans nos pièces de théâtre sur ce questionnement. Le dernier travail en date, c'est une pièce de théâtre qui s'appelait Outrage ordinaire, où on posait la question de qui sont les héros d'aujourd'hui. Et finalement, les vrais héros d'aujourd'hui sont peut-être les migrants, c'est-à-dire ceux qui traversent des montagnes, ceux qui traversent les mers, ceux qui restent sans manger ni boire. Donc c'est un thème, une thématique qui nous touche, qui nous interpelle beaucoup aujourd'hui. Comment faire dans notre Europe fortifiée de toutes parts pour aller à la rencontre de ces gens qui aimeraient bien aussi participer de ce soi-disant paradis.
Alors, on vous demandera en fin d'émission ce que ça a transformé dans vos têtes. Mais est-ce que c'était facile de rencontrer ces migrants, Frédéric Chauffat ?
Oui, mais c'était une surprise. C'est vrai qu'on est parti à Tanger comme une descente au sud, à la rencontre de l'Afrique du Nord. Et en fait, ça a été surtout une rencontre de l'Afrique subsaharienne, donc ce que les Marocains appellent les Africains, c'est-à-dire les Noirs et pas du tout les Marocains. Et du coup, oui, ils ont surgi par rencontre interposée, parce que tout d'un coup, on s'arrêtait près d'une femme, Myriam, qui vendait des crèmes et des montres par terre, par Mamadou, dont nous avait parlé Cédric. Et ces rencontres se sont faites de fait assez logiquement, assez simplement.
C'est la ville moderne, contrairement à hier où nous étions dans la Médina, en train d'évoquer aussi le passé littéraire de cette ville qui en a inspiré plus d'un. Cette ville moderne, elle se présente comment, cette Tanger moderne, Julie ?
Mais ce sont des immeubles aussi plutôt blancs, c'est beaucoup de grandes avenues avec plein de cafés de partout. C'est une Tanger qui est très agréable aussi, on sent quand même encore le passé, mais qui est plus tourné vers l'avenir et où Cédric nous a emmenés dans un petit boui-boui, comme il dit.
Cédric et Mamadou, un personnage à écouter absolument. Toutes les raisons sont bonnes dans des tours pour écouter le tube d'Abdelmalik avant de retrouver nos reporters et Tanger en chair et en son.
Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangster rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui boit, dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier, le foyer qu'il n'a en fait jamais eu, et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui, et ça pleure au fond de lui. Faut rien dire et tout est dit. Et soudain il se fait derviche tourneur. Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin, il hurle comme un fakir. De la vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin « je t'aime » à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent. Ils veulent être or puisqu'ils sont cuivre. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves, même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance, il dit « Ramons tous à la même cadence !» Dans le bar, il y a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou. Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse, qui le démontait pièce par pièce. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui enfin voit la lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Maintenant il pleure de joie, souffle et se rassoit. Désormais l'amour seul sur lui a des droits. Sur le détroit de Gibraltar, un jeune noir prend ses valises, sort du piano bar, échange ses quelques devises. Encore gros d'émotion, il regarde derrière lui et embarque sur le bateau. Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue. Vogue vers le Maroc tout proche. Vogue vers ce Maroc qui fera de lui un homme. Sur le détroit de Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc. Sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc. Du Maroc.
Vogue vers le Maroc, voyage dans l'autre sens, Julie Gilbert et Frédéric Chauffa. Détour avec Cédric devant un plat de lentilles. Cédric qui va nous permettre de rencontrer Mamadou.
Nous nous trouvons juste derrière le boulevard Tanger, dans une rue dont j'ignore le nom, parce qu'il n'y a pas de nom sur les rues, mais dans un petit restaurant marocain qu'on pourrait nommer Bouiboui, où les Marocains modestes, les Marocains qui vivent et travaillent à Tanger, viennent se restaurer après leur journée de travail un peu ardue, soit à Tanger Med, soit dans les champs, soit en tant que en pratiquant tous les multiples petits métiers de quartier, pareil aiguiseur, cireur, etc. Ce sont des restaurants qui sont ouverts jusqu'à 11h minuit et dans lesquels on mange les plats traditionnels marocains tels que les lentilles, la dèse ou ces bonnes petites brochettes aux épices. Vous avez des soupes différentes tous les soirs, mais ça reste très rustique.
Bon, bismillah, t'empêches pas de manger. Là, on va manger une grosse assiette de lentilles. Ça s'appelle comment, ça?
Ça s'appelle la dès, c'est un plat de lentilles qu'on retrouve aussi en Égypte, au Liban, en Palestine. C'est le plat du pauvre. Il y a des oignons et des lentilles. Ils font aussi une soupe de fèves, on appelle ça du foul en arabe. C'est des fèves, des grosses fèves. Ils y ajoutent quelques autres condiments, et puis il faut revenir ça très longtemps, que ce soit bien tendre. Et comme c'est plein de fer, voilà, c'est le repas du travailleur. Est-ce qu'on vous a parlé des personnages de Tanger? Alors, on pourrait classer les personnages par catégorie, on pourrait les classer par chronologie. Il y a évidemment les personnages de Tanger, ville mythe, où des écrivains, des cinéastes, peut-être même des musiciens, peintres, sculpteurs, différents businessmen de Aristote Onassis, des hommes politiques, Churchill, sont passés. Mais il y a aussi les personnages de Tanger d'aujourd'hui qui étaient déjà là avant, qui sont toujours des personnages parce que dans n'importe quel quartier, où que vous alliez à Tanger, si vous demandez « Tu connais ce type qui est ainsi vêtu, qui parle de cette façon, qui a ses mimiques, tu le connais ?» Et les gens vont dire oui. Et il y a des personnages comme ça qui sont des anonymes mais qui sont connus à Tanger. Celui pour moi qui a le plus de style, c'est le clochard du Grand Soko. Alors il doit mesurer 1m80 et ses cheveux, sa crinière, penche uniquement à droite. Elle descend jusqu'à ses chevilles et la cire, la saleté, la poussière a formé dans ses cheveux des sortes de dreadlocks qui font 1m10, 1m20 de long. Il a une immense tignasse et c'est impressionnant. Il est sale et il vous regarde comme ça à tête penchée. Et on ne sait pas comment il survit, on ne sait pas où il dort, on ne sait pas comment il se nourrit. Mais il est là, dans cette saleté qui le protège sans doute, hein, d'autres maladies, d'autres saletés. Et ça, c'est un personnage. Tout le monde le connaît, il est impressionnant. Il fait un peu peur. On dirait un personnage d'un roman de Stephen King ou de je ne sais quel romancier fantastique. Après, il y a un panchilien aussi, je ne connais pas son nom, mais qui est toujours très élégant, très dandy, plein de flegme, un peu précieux. Toujours avec des costumes, hein, tantôt rose, tantôt orange, melon, tantôt rouge, tantôt bleu ciel. Il paraît qu'il est pianiste à ses heures perdues. Et tout le monde le connaît, mais personne ne le connaît personnellement, mais tout le monde le connaît quand même. Tout le monde a des anecdotes sur lui, mais pas les mêmes. Voilà, les personnages de Tanger, c'est ça.
Et toi, là, au milieu, t'es quoi comme personnage ?
Bon, je suis professeur d'économie, de sciences politiques. Mais à Tanger, qui je suis ? Bah, je suis un Européen pour les Tangérois, un Occidental, un chrétien. L'autre, je suis de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a un mot qui résume ces trois idées en un seul, un mot de Darija. Darija est une sorte de créole, hein. Il y a un peu d'espagnol, un peu de français, un peu d'anglais, un peu d'italien, un peu d'arabe. C'est une langue hybride, dont le mode de temps principal est l'impératif. C'est une langue d'ordre. On donne des ordres, hein. Mais parce que l'ordre est direct et soudain. En fait, je pense même qu'il s'y est assez bien avec le climat. Il y a beaucoup de vent, on peut vite ne plus s'entendre à Tanger. Donc un impératif, c'est soudain, c'est strict, ça va vite. Ma plus belle rencontre, c'est deux types de rencontres. Mes rencontres les plus simples, en fait, mes rencontres les plus humaines, c'est les Africains de Tanger. Ce sont des êtres simples. Ils nous harangent, ils nous posent des questions. Tu viens d'où ? Que fais-tu ici ? Nous, on veut faire ça. Qu'est-ce que tu as vu avant ?
Alors, je te stoppe tout de suite parce que les Africains de Tanger, il faut expliquer, le Maroc, c'est le Maghreb, c'est pas l'Afrique pour les Marocains. Donc Tanger, je pense, c'est encore moins l'Afrique pour les Tangérois. Quand tu parles des Africains de Tanger, c'est qui ?
Je pense à ces Africains qui viennent de ce que pour nous, c'est l'Afrique. Parce qu'en fait, l'Afrique du Nord, c'est pas vraiment l'Afrique. Et les Africains du Nord, ce ne sont pas vraiment Africains. Je vais le dire crûment, mais les Africains, c'est les Noirs. Les Noirs, c'est des Sénégalais, les Maliens, les Gabonais, les Guinéens. Et ici, ils sont là et ils essayent de venir en Europe. Hein. Ils veulent venir chez nous, ils veulent aller en Espagne. Parce que, soi-disant, c'est mieux chez nous. Et ils ne savent plus vraiment pourquoi ils veulent le faire. Alors, ces Africains, ils ont souvent des visas marocains pour rester quelques mois. Parfois, ils trouvent un travail ici. Sinon, ils dorment dans des forêts et ils sont dans la rue. Ils ne font pas la manche. Et ils posent sincèrement la question, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? C'est une question magnifique, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? Voilà, je ne sais pas quoi faire, moi avec moi-même, je ne sais pas quoi faire, mais j'ai envie de faire quelque chose pour appartenir à ce gigantesque mouvement qu'est la vie.
Marché aux poissons de Tanger, 16h. Il n'y a que des hommes qui rangent déjà toutes leurs affaires. Des énormes mérous comme j'en avais jamais vu d'aussi gros, je crois. Des requins, des crevettes, des rougets. C'est vraiment l'abondance. Mais on sent que c'est la fin de la journée.
Alors devant nous, des bacs verts avec des énormes poissons. Salam alaikum. Parlez français ou espagnol ?
Je suis.
C'est quoi comme poisson ?
C'est à la mer.
Un merou ?
Un merou, oui.
Et combien de kilos ils font ?
20 kilos, 140.
140 dirhams.
Non, 140.
Mais combien de kilos ?
Depuis 10 kilos, 10, 10, 13. Oui. Maloussa. Maloussa.
Un merlon.
Un merlon, merlon, c'est la merloussa d'Espagnol, ouais, la merlon de France.
Claro oui. Que si.
Loulou, dis-moi le loulou.
Et tout ça, c'est pêché ici à Tanger ?
Et Tanger, c'est.
Voilà, donc on sort du grand marché aux poissons. Et puis il nous disait aussi, le temps est moins bon ici, le poisson est beaucoup moins cher à Agadir. Un peu moins cher à Casablanca et ici beaucoup plus cher et moins beau.
Mais ça s'explique sans doute par le détroit, parce que le détroit, d'une part, il y a beaucoup de courants, d'autre part, il y a énormément de trafic de baleines, donc il y a un trafic de beaucoup de poissons, il y a un trafic de bateaux. infernal toute la journée, ça cesse. C'est des gros paquebots de marchandises.
De contrebandiers et de migrants.
Migrants. Voilà.
Détour, vous voyagez jusqu'à 14h.
Il y avait dans le ciel une lumière éternelle, la peur au fond de moi, une lueur dans tes yeux. C'est d'amour pour deux, je sais maintenant pourquoi. Oh, ce fut facile, un battement de cils, et nous ne faisions plus qu'un. Désormais, quand la pluie me réveille la nuit, je veille jusqu'au matin. De l'innocence suivi par l'enfer, je me souviens surtout que nous avions quitté la terre, l'espace d'un instant, d'un éclair. Les choses qui rassurent ne me font plus de bien. Est-ce le manque de sommeil ou la drogue en bouteille? Je ne suis plus sûr de rien. Partout il me suit, mon pire ennemi. Aura-t-il raison de moi? Une chose est sûre, cette vie ou futur, tu ne seras plus jamais à moi. Je me souviens de tout, de l'innocence suivie par l'enfer. Je me souviens surtout que nous avions quitté la terre. Espace d'un instant, espace d'un instant, espace d'un instant, un éclair.
C'est grâce à Cédric que vous avez pu rencontrer Mamadou. Vous avez traversé le marché dont on a entendu les sons tout à l'heure, Frédéric.
En effet, on a rendez-vous avec... Enfin, on sait que Mamadou tient bureau sous le lampadaire qui se trouve face au marché aux poissons. Donc on traverse le marché aux poissons. On se trompe un peu dans les traductions de poissons. C'est la fin de la journée. Et on arrive vers le lampadaire et c'est là qu'on retrouve Myriam et pas Mamadou, qui lui va nous retrouver plus tard sur la place du 8 avril.
Mamadou, qui accepte facilement de vous parler, il y a d'autres gens que vous n'auriez pas pu rencontrer dans les forêts autour de Tanger qui se cachent.
Oui, il y a plein de forêts en fait autour de Tanger et dans ces forêts, notamment c'est des forêts qui s'appellent Bel Yonek et Misnana, il y a effectivement des migrants qui s'installent, qui font des sortes de petites tentes de fortune et qui essayent de survivre malgré les intempéries et qui essayent bien sûr de passer, de
tenter leur chance. Quelquefois de passer en force, disiez-vous, en antenne.
Oui, bah, des essais de passer. Alors, il y a les histoires quand on est proche de Ceuta. Donc, Ceuta, c'est quand même une enclave espagnole à l'intérieur du territoire marocain. Il y a des immenses grillages. Et donc, il y a toujours l'espérance de pouvoir passer de l'autre côté. Donc, il y a ce côté-là. Mais il y a aussi la tentative, comme Mamadou, de passer en petit canoë ridicule le détroit de 14 km pour arriver en Espagne.
Je m'appelle Mamadou, je suis de nationalité sénégalaise. J'ai quitté au Sénégal l'année passée. Je voulais venir ici au Maroc, essayer d'aller en Europe. C'était ça mon souhait, quoi. Bon, comme métier, je suis tailleur. Je fais la couture, quoi. J'étais à Bamako, au Mali même. J'ai fait 2 ans là-bas. Je travaille là-bas dans une grande atelier même. Profession, je suis tailleur en broderie même. Bon, pour l'instant, je suis ici. Je me bats, j'achète des portables à Casablanca. Tu vois, des portables qui sont moins chers. Je prends le bus, aller à Casablanca, acheter des portables et revenir à Tanger ici pour essayer de gagner ma vie, vendre des portables, des chaînes comme ceux que je porte comme ça ici. Voilà, comme ça, c'est ça. Actuellement, c'est ma vie comme ça. J'ai quitté le Sénégal, bon, parce que je ne pouvais plus travailler au Sénégal. Le taux de chômage était augmenté, tu vois, je n'arrivais pas à travailler. J'ai voyagé par la Mauritanie. Tu sais, le Sénégal et la Mauritanie font frontière. J'ai pris une voiture, il m'a amené jusqu'à Nouakchott. Je l'ai payé environ 20 euros, 20 000 francs CFA, quoi. C'est comme ça que j'ai payé. Arrivé à Mauritanie, je me suis renseigné auprès des gens qui sont là-bas. Ils m'ont dit que si tu veux quitter la Mauritanie pour aller au Maroc, tu as besoin d'une voiture qui va t'amener là-bas. J'ai discuté avec quelqu'un, il m'a dit que lui, il a un camion. Et lui, c'est un Marocain aussi. Il a un camion de fruits. Il transporte les fruits de Maroc en Mauritanie. Lorsqu'il retourne, il va être vide, quoi. Il n'aura pas de passagers. Il m'a dit, bon, je peux te faire voyager, il n'y a pas de problème. Tu vas me payer 50 000 francs CFA, environ 50 euros. Je suis tombé d'accord avec lui. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je peux t'emmener jusqu'à Agadir. C'est une ville qui se trouve au Maroc ici. Tu vois, une fois arrivé aux frontières, j'ai payé là-bas aussi une somme pour qu'on puisse me laisser passer. Une fois arrivé à Agadir, j'ai demandé à quelqu'un, un ami, que j'ai vu là-bas, on a bien causé, je lui ai expliqué mon problème. Lui m'a aidé aussi. Il m'a donné 100 dirhams pour que je puisse continuer mon chemin. Parce que mon destination était le Tanger. Je voulais venir ici. Je ne voulais pas arrêter nulle part. Je ne voulais pas arrêter à Casablanca, à Rabat. Je voulais venir tout simplement ici, à Tanger. Parce que c'est ici qu'on prend les pirogues pour partir. J'ai arrivé ici à Tanger aussi. Je ne connaissais personne. Personne. J'ai arrivé ici même, là où on est même. J'ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas des compatriotes sénégalais comme moi qui sont ici? Ils m'ont dit, bon, ils ne sont pas beaucoup ici. Bon, je suis arrêté là-bas dans un café, j'ai dormi là-bas jusqu'à le matin. Lorsque je suis venu ici, il y a des réalités qui se trouvent ici. Il y a des réalités. Pour voyager, il te faut d'être avec 6 personnes ou bien 7 personnes. Vous allez cotiser, payer un zodiac. C'est ce zodiac-là que vous allez prendre pour voyager.
Ça, il faut cotiser combien? Tu le trouves où, ce zodiac? Qui c'est qui s'organise pour l'acheter? Qui c'est qui le vend?
Bon, le zodiac, ça se vend ici, au Maroc. On l'achète à Rabat. On le fait transporter clandestinement, sans personne ne le sache, parce que l'autorité marocaine ne veut pas que nous achetons des pirogues pour prendre la mer, aller en Europe. Ils ne veulent pas ça. On le fait clandestinement, sans personne ne le sache. On a des moyens de le faire. Tu vois, on l'achète, on l'amène.
Le jour ou la nuit?
Bon, c'est la nuit, on prend ça la nuit, parce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose de légal, on se cache quoi, on prend ça la nuit, on voyage entre les 4h et 5h du matin. On a une pompe, on a des rames, des fois si on a l'argent, on paye des îlets de sauvetage, en cas où, si on a des problèmes pendant le voyage, si on n'a pas assez d'argent, on voyage comme ça. Moi que tu parles là, j'ai voyagé plusieurs fois sans îlet de sauvetage.
Tu as essayé de passer plusieurs fois?
J'ai passé 3 fois même, j'ai essayé 3 fois maintenant. La première fois, j'ai essayé. On a gonflé notre zodiac dans la plage. Tu as vu, on l'a bien pompé. On a poussé un tout petit peu, dépassé un peu les vagues et on a sauté. Tout le monde a monté. On a commencé à ramer, à ramer, à ramer et commencé à continuer comme ça notre chemin en espérant que personne ne va nous attraper.
Et là, vous étiez quoi? 6 hommes, 7 hommes, des femmes?
Ce premier voyage, on était 7 personnes, que des hommes. On a voyagé au long de la mer. On est presque arrivé en Espagne même. Mais au long de la voyage, bon, on a surpris qu'il y avait une grande pirogue qui arrivait. On croyait même que c'est les bateaux espagnols qui vont venir nous récupérer. C'est la marine marocaine qui nous a attrapés au long de la mer même. Ils nous ont attrapés. Ils nous ont lancé une corde. On refusait parce qu'on ne voulait pas revenir au Maroc. Mais on était obligés. Ils nous ont lancé une corde. On a attaché ça sur le Zodiac. Et ils ont tiré. On est arrivé, on est monté. Direction encore au Maroc encore. On est arrivé là-bas. Ils ont récupéré le Zodiac. Ils avaient des couteaux. Ils ont coupé le Zodiac, enlevé tout ça pour montrer que ça ne va plus nous servir quelque chose. Ils nous ont arrêté le matin vers 8h. On est resté là-bas jusqu'à 19h le soir, 20h comme ça. Jusqu'à ce que ça commence à devenir noir. Et ils nous ont laissé partir. Et on est rentré. Mais maintenant, ça reste le deuxième voyage. Il y a des morts. J'ai perdu mes frères. J'ai perdu 3 de mes frères. Ce convoi aussi était un convoi de 7 personnes. 7 garçons. On était tous des Sénégalais. Mais on est parti au long de la mer avec des rames. Une vague nous a renversés. Et aussi, lorsqu'on est parti au long de la mer, on a constaté que notre zodiac refilait de l'air. Il y avait un trou même. Il y avait un trou. Mais on ne pouvait plus retourner. Il y avait d'autres qui me disaient qu'on ne va plus retourner. On n'a qu'à continuer notre chemin. T'as vu? On n'a qu'à continuer notre chemin. Mais au long de la mer, on a fini par être renversé par une grande vague. Tout le monde a tombé.
Donc ça, c'était la nuit et il y avait un mauvais temps, il y avait du vent.
Il y avait un mauvais temps même, c'était un jeudi même. C'était un jeudi parce que le matin, il y avait trop de vent. Mais on avait insisté pour partir. On avait insisté pour partir parce qu'on ne pouvait plus rester ici. On nous empêche de faire de travail ici. On ne donne pas l'occasion de gagner notre vie. Parce que vous savez quelque chose, même en Europe, on est parti là-bas pour travailler. Donc si on avait l'occasion de travailler ici, on ne va pas prendre la mer. Ça s'est passé comme ça. Au long de la mer, on est renversé par une grande vague. Bon, tout le monde a tombé. Tout le monde a tombé. On ne pouvait plus monter parce que le Zodiac a refilé tout l'air qui était à l'intérieur. Dans le Zodiac, il y avait des cordes. On a tous attrapé le corde. Tout le monde a attrapé le corde. Et on continuait à avoir l'espoir que quelqu'un va nous trouver là-bas. On a passé la nuit là-bas. Parce que c'était... Ouais, on a passé la nuit là-bas. Parce qu'on est arrêté là-bas très longtemps même. Personne n'est venu nous chercher. C'était le mois de novembre. Novembre passé. Il faisait froid. Je ne te mens pas, il faisait froid. Mais comme d'habitude, quand il fait froid, il n'y aura pas trop de gardes même dans la forêt. Parce que là où on pose pour prendre la mer, c'est dans la forêt. Il n'y a pas trop de gardes. Il n'y a pas trop de sécurité là-bas. C'est pour cela qu'on part des fois dans l'hiver. Tu as compris? On est tous tombés. Une de mes copains était attachée à moi comme ça. Nous tous, on a attrapé le corde. Mais au fur et à mesure, lui, il a eu une crampe. Il a eu une crampe. Il me disait que notre vie va s'arrêter ici. Je lui disais, moi, j'essayais de le calmer. Je lui disais, non, ils vont venir nous chercher. Il y aura quelque chose qui va venir nous chercher. Dieu est là, on est tous croyants. Après aussi, une grande vague est venue encore. Il nous a tous séparés. Moi, je le voyais partir comme ça. Je ne pouvais pas la retenir. Il partait comme ça. J'ai crié son nom, mais je le voyais partir. Il s'appelle Cher. C'est un Sénégalais. J'ai sa photo à la maison, je le garde. Et c'est un ami. Il fait partie des premières personnes que j'ai connues ici. On a voyagé mal et il est resté dans l'eau avec 2 autres personnes même. Ils étaient 3. Mais Cher était la personne qui était plus attachée à moi. Parce qu'on marchait ensemble, on vendait nos portables ici, on faisait tout ensemble. T'as vu? Bon. La marine est venue nous sauver. On les a expliqués que 2-3 de nos compatriotes sont tombés dans la mer, sont sur l'eau même. Est-ce que vous pouvez les aider même? Eux disent qu'ils ne peuvent pas plonger. Ils étaient trop bien habillés avec leur uniforme, ils ne voulaient pas plonger. Ils nous ont laissés comme ça. Ils nous ont reprochés dans la mer, emmenés à la marine royale, et nous disaient de ne pas dire rien du tout à qui que ce soit. Ils ont de rien dire. Mais nous, on a une communauté sénégalaise qui est très forte ici. Lorsqu'on est arrivé, on a expliqué le problème à tout le monde. Cher même, on a repêché son corps. On a vu son corps ici. On l'a enterré ici, tout près même. Cher ne savait pas nager. Moi aussi, moi-même, je ne sais pas nager. C'est le suicide même. Je vous dis ça, mais c'est du suicide même. C'est du suicide, je le jure. Tu ne sais pas nager, tu empruntes la mer. Mais tout ça, parce qu'on a une croyance, quoi. L'Afrique, c'est dur, mon frère. L'Afrique, c'est trop dur, même. On n'arrive pas à travailler. Tu vois, on a des obligations chez nous. On est majeur maintenant. Tu vois, on va gagner notre vie, avoir une famille demain.
Et avec tout ça, tu veux repartir?
Non, vraiment, bon, je ne mens pas. Je ne veux plus partir, je ne veux plus prendre la mer maintenant. Parce que je sais que c'est le suicide même. On se suicide, je le jure. Je dis ça à tous mes frères qui sont ici, de ne pas emprunter la mer. De faire d'autres choses, quoi. Ou bien même de retourner au pays, même ça vaut mieux même. Et on a des gens qui comptent sur nous, qui sont au pays. On n'a pas le droit d'aller faire des choses comme ça, quoi.
Et demain?
Demain, je ne sais pas. Demain, c'est un autre jour. Je ne sais pas ce qui va arriver, quoi. Je suis là, quoi. Mais vraiment, pour l'instant, je vis le présent, quoi. C'est ce que je fais, quoi. Vraiment. Là-bas au Mali, tu sais, j'avais un ami. Il avait sa guitare. Moi, je chantais. On essayait de gagner notre petit pain là-bas, gagner un tout petit peu quelque chose. Lui jouer, moi, je chantais. Ce qui me pousse même à aller en Europe, même, je ne te mens pas, parce que je voulais traverser ici, essayer de voir une grande maison de disques qui peut me produire et que je continue ma musique. C'est ça, quoi. C'est ce qui est mon rêve, quoi. C'est ce que je veux faire. Faire la musique dans ma vie, quoi. Vous voulez que je chante ici? Ok, il n'y a pas de problème. Attends, je vais vous chanter une chanson. Bon, c'est une chanson de Ousmane Lolo, quoi. Bon, bon, je l'aime beaucoup aussi. Tibidibide. Ah, dibidibide. Ah, dibidibide. Beugel ken khamul lumudon. Kumpu jubari nta kham amatu fi won ni beugal moy capitaine no boromam ndax mo lay matlo tibidibide ah dibidibide répétez ça avec moi dibidibide ah dibidibide
Récit de Mamadou, j'essaie d'imaginer comment ça vous avait transformé. On a parlé tout à l'heure de cette migration qui est un thème qui vous préoccupe. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes après cette rencontre?
Après cette rencontre, d'abord on était très émus d'entendre réellement quelqu'un nous raconter comment il a essayé de traverser, comment c'est difficile, comment il fait
comment
froid.
Comment il a perdu sa famille, une partie de sa famille.
J'appelle ses frères, mais en fait c'est ses amis. Donc voilà, c'est vrai qu'on se met toujours à la place de ces gens en disant est-ce qu'on serait capable de faire la même chose? Pas sûr. Et puis la détresse que c'est de devoir traverser au risque, au péril de sa vie pour tenter son avenir, avoir un avenir meilleur. Donc c'est sûr que ça nous bouleverse, ça nous touche, parce que ça pose la question du vivre ensemble aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend, quel avenir pour cette planète, tout simplement. Quoi.
Et puis c'est toujours cette question, nous on part en voyage à la rencontre de l'autre, on arrive dans un pays, on est venu en bateau, un peu en avion, on peut repartir le lendemain, et lui va rester là en disant c'est du suicide, j'y vais pas, alors pourquoi nous on peut aller dans le sud et on peut pas monter dans le nord, donc c'est toujours cette question là surtout quand 2 mois plus tard, donc on se retrouve en juin, on reçoit un petit message et il nous dit, cher Fred, chère Julie, j'ai fait ce que je vous avais juré ne jamais faire,
parce qu'il vous avait juré, je ne vais plus le faire.
Il a dit c'est du suicide, je suis là, je vais, c'est ce qu'il nous raconte, quoi. Et là voilà, il nous dit ben j'ai traversé, je suis vivant, je suis en Espagne, j'avais besoin de vous le dire.
Et vous l'avez rencontré il y a pas très longtemps à Barcelone, qu'est-ce qui se passe dans sa tête aujourd'hui?
Alors dans sa tête, je ne sais pas, mais dans sa vie, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a réussi à traverser. Il a fait 2 mois de camp d'internement, d'enfermement de réfugiés à Tarifa. Il a ensuite été libéré et il se retrouve aujourd'hui à Barcelone. Il a vendu pendant tout l'été des lunettes. Aujourd'hui, il n'y a plus de lunettes qui se vendent, c'est plus l'été. Donc il est passé à un autre stade, qui est celui qu'il ne voulait pas faire, qui est Charretero, qui est de ramasser les bouts de ferraille, les bouts de carton, etc. pour se faire quelques 5, 6, 7 euros par jour, un grand maximum.
Donc des regrets dans sa tête?
Beaucoup de regrets, parce qu'il savait que c'était difficile, on en avait parlé, mais il le savait aussi par d'autres biais. Il savait que c'était difficile la vie en Europe, mais il dit... Ben, je savais que ce serait difficile, je savais que c'était la crise, mais je pensais qu'il y aurait tout le temps quand même des petits travaux, quelque chose où je peux donner un coup de main, me rendre utile, trouver de l'argent, envoyer de l'argent à la famille et continuer ma route. Et il remarque que c'est très difficile, il dit même les Espagnols n'ont rien, pourquoi moi j'aurais du travail? Donc du coup voilà, c'est la question qui se pose pour lui, est-ce que je continue, est-ce que je m'arrête là? Rentrer dans cet état, c'est pas possible, parce qu'on quitte un pays, on quitte un village avec beaucoup d'attentes, beaucoup de familles qui attendent sur vous. Lui, son projet aujourd'hui, c'est de se dire ben, j'aimerais gagner de l'argent et rentrer à Dakar. Il est tailleur, il est couturier, ouvrir un salon de couture, avoir des belles machines, avoir la climatisation, et puis de se dire ben voilà, tout le monde va venir chez moi, tout le monde va venir chez Mamadou, et déjà là-bas il y a la climatisation et les machines sont belles, et puis pouvoir construire quelque chose. Mais il dit, mais viens voir là-bas, il n'y a rien, donc on est obligé de partir.
Sail the ships away, where the wind don't blow, Dry your tears, let the napkin fall. See the new made streets, how they dress with tears. The wind is blowing right here. Your speed, love, beats my heart. Left is pain, that's my part. Thoughts away to an endless hole. All I hear is the echoes call. Missing winter days when we played in snow. The spring has melted all away. Sail the ships away where the wind don't blow. Dry your tears, let the napkin fall. See the new made streets, are they blessed with tears? The wind is blowing over there. Your speed, love, beats my heart. Left is pain, that's my thought. Your speed, love, beats my heart.
Détour en voyage à Tanger avec Julie Gilbert et Frédéric Chauffa. Ça, c'était Sail the Ships Away, Prince of Assyria. Troisième étape du voyage, vous avez eu envie de savoir s'il y avait un certain nombre d'associations qui s'occupaient de ces migrants.
Oui, en effet. Donc, on avait une adresse. Après avoir fait quelques recherches, on voulait rencontrer le responsable de MSF, mais qui malheureusement n'était pas là à ce moment-là. Et on a entendu parler de l'association Amrid, tenue par Arona. On a pris donc en effet plusieurs taxis. Les gens ne savaient pas où ça se trouvait. C'était très compliqué. On a fait une bonne heure et demie pour y aller et rejoindre un Tanger beaucoup plus populaire, beaucoup plus pauvre, beaucoup plus peuplé, passionnant, grouillant, mais qui n'a plus rien à voir avec la facette belle, jolie, romantique du Tanger touristique.
Donc Arona va nous expliquer en quoi consiste son job au sein de cette association. On va rencontrer Sapiaï aussi, Julie.
Oui, qui est un jeune homme qui est à ce moment-là dans la seule autre pièce de l'appartement qui sert pour l'association, qui est devant Internet, qui fait des recherches, qui essaie de faire des contacts et qui, malgré tout ce que vient de nous dire Arona, comme quoi il ne faut pas traverser, que c'est vraiment suicidaire, encore une fois, lui donc va nous tenir un tout autre discours.
Primo, français.
On a un problème, on veut aller dans le quartier de Ben Kiran, rue principale.
Chère Ben Kiran, chère Ben Kiran. Ibis, hôtel Ibis.
Non. On va association à Armid.
Ah, parce que. L'Emaradjish, je crois que
non.
La gare.
Elle est sur la baie?
Oui.
Oui? Ok, alors on va à la gare. Et on verra.
Bien, j'ai de la gare, il y a un petit peu.
Donc là, on est arrivé dans un petit appartement qui était fermé à clé. Et Arona va nous faire visiter cet endroit qui est le lieu de leur association. Donc là, par exemple, je suis dans une cuisine où il y a en fait grands espaces de rangement en plastique. Donc il y a marqué « Ropa bebé invierno », ça veut dire « vêtements pour bébé hiver »,« préservatif ». Sinon, des pantalons, hommes, femmes, voilà, donc beaucoup de vêtements.
Je travaille ici dans cette association que vous voyez, Armide, Association Rencontre Méditerranée pour l'immigration et le développement. Oui, je suis là, je travaille ici, ça fait presque 3 ans. Mais la situation des migrants ici au Maroc est très difficile. Comme vous voyez, les gens viennent de Mali, de Guinée, de Sierra Leone, de Liberia, partout. Ah, il y a 4 pays qui sont signés avec le Maroc, qui n'ont pas de visa avec le Maroc. Il suffit une cachette d'entrée de 3 mois, comme le Sénégal, la Guinée, Côte d'Ivoire et le Mali, qui arrivent à rentrer normalement dans les frontières en passant par Mauritanie, Berguindouze, à la frontière de Maroc pour rentrer ici. Pour faire leur vie, il y a beaucoup qui tentent d'aller en Europe parce que la situation est difficile ici. Ce qui pousse en général les gens à aller de l'autre côté. Du coup, il y a des gens qui arrivent à rentrer, mais il y a beaucoup de gens qui sont durés ici, qui ont tenté plus de 5 fois ou 10 fois, qui n'ont pas réussi à partir. Comme vous le voyez ici à Tanger et à Kassiakou, à la forêt de Ben Younous, il y a même des gens qui sont logés dans la forêt. Ils ont des tendas là-bas, ils vivent une situation difficile. Des fois, c'est les ONG et les aides humanitaires qui les trouvent là-bas pour leur donner du manger avec des draps pour se couvrir et tout ça, tu vois. Dans tous les côtés, il y a des gens qui veulent tenter, mais ce n'est pas difficile. La marine marocaine est là aussi pour surveiller les côtes.
Il y en a tous les jours des zodiacs qui traversent ?
Non, parce qu'à l'heure là, il commence à faire froid. Parce qu'actuellement, même octobre passé, il y a des gens qui sont morts dans l'eau, des frères sénégalais avec ivoiriens. C'est moi-même, j'ai tout ça dans l'ordinateur, j'ai moi-même qui les a enterrés. C'est leur besoin, mais nous, on les dit que, on les dit la réalité, ce qui se passe en Europe. Quand même en Europe, il y a des propres Européens qui n'ont pas de travail, qui n'arrivent pas à travailler à cause de la crise. Moi, mon conseil, comme je vous l'ai dit, chaque fois je les conseille, ce n'est pas l'appel d'aller se tuer dans l'eau là. Parce que ce n'est pas l'Eldorado que vous croyez. Ce qui est trop dur, je pleure ça chaque fois de voir mes frères africains mourir dans l'eau là. Parce que c'est trop difficile. Vous voyez 14 km comme vous le voyez là. Quand tu viens, tu vois que devant toi que c'est facile, mais c'est pas facile. 14 km là, ça a tué beaucoup de monde.
J'ai ma fille dans mes bras. Elle s'appelle Khadija. Elle a 6 mois. Je suis sénégalais. On est venu par voiture, la Mauritanie, traverser la Mauritanie aux frontières. Ils te demandent ton argent de poste. Si c'est nécessaire, on te laisse. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu ne peux pas rentrer parce que les villes sont tellement loin. S'il n'y a pas de travail ici. Maintenant, notre expérience, là, il nous a montré de vendre, acheter des trucs, on vend.
Crème de massage,
oui.
Des montres.
Oui, des montres, là.
Et ça vient du Sénégal ou ça?
Oui, ça vient du Sénégal.
D'accord.
Les Marocains exportent ça au Sénégal. On les exporte.
Donc vous les achetez à des Marocains ici?
Oui, on les achète, mais c'est des produits du Sénégal.
Donc les Sénégalais les vendent à des Marocains, les Marocains les revendent à des Sénégalais et les Sénégalais les revendent à des Marocains.
Oui, encore, oui. On fait des commerces.
C'est un vrai commerce.
Comme il n'y a pas de travail au Maroc, on oblige. Nous, les Sénégalais, on est intelligents. On part vendre, acheter chez eux, après on les revend. Oui, c'est ça, on travaille. Des fois, on a des difficultés avec la police, mais après, des fois, ils ont piqué les Noirs. Ils ont piqué les Noirs, des fois. Comme nous, les femmes, ils ont pitié.
Quand les gens traversent, quand ils rament à peu près 5 km, ils appellent la marine espagnole. Comme quoi qu'ils sont dans la mer, quoi. Et la marine espagnole, quand eux, ils sont au courant, ils allument les hélicos et eux, ils viennent en mer pour rechercher, quoi. Ils vous demandent votre situation et tout. Mais si Des fois, la marine espagnole, quand ils ne voient pas, ils appellent marine marocaine qu'il y a des Africains qui sont en pleine mer, essayer de nous aider, quoi. Mais si la marine marocaine vient et qu'ils vous attrapent, vous êtes foutus. Parce qu'ils viennent, ils ont honte que marine espagnole les appelle alors que vous venez de leur territoire. C'est une honte pour eux. Là, ils percent le soya, ils essaient de récupérer deux personnes et ils tuent tous les restes. La plupart des Africains ne savent pas nager. Mon objectif à moi, c'est de traverser, de vivre dans un pays où on sera libre, même si on n'a pas de l'argent. C'est ça l'objectif. En Europe, il y a la démocratie, les gens vivent, tu peux faire ce que tu veux, tu as plus de sens de t'en sortir, tu as plus de projets, tu as plus de vie, quoi. Mais ici, ça fait 4 ans que je n'ai pas une copine, hein. 4 ans dans un pays où tu es pendant 4 ans, tu n'as même pas d'amis marocains. Parce qu'ils sont très racistes. Tu rentres dans un café, tu t'assois, ils sont en train de te parler. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Rentre chez toi. Et à Dakar, depuis tout petit, on voyait nos grands frères, nos frères qui venaient de France. Parce que la France est le pays qui nous a colonisés, quoi. Donc, on a un lien fort avec la France et j'en connais plein de gens qui étaient en France, qui sont bien, bien partis, quoi.
Mais est-ce que tu en connais qui ont mal tourné? Ou pour qui ça a été très dur, qui n'ont pas trouvé de travail, qui se sont retrouvés en prison?
Ouais, l'aventure, c'est comme ça. Ça ne peut pas marcher pour tout le monde. Moi, je peux venir en France et je gagne bien ma vie et je trouve des gens qui ont fait 20 ans là-bas et que ma situation est mieux que... C'est la chance, la vie. Et on espère que la chance nous sourit un jour et c'est ça. Je peux jouer tout de suite au loto et je gagne 1 million d'euros. Hein. La vie, c'est la chance.
Mon nom, c'est Sikou Touré. Je suis de la Guinée-Conakry.
Ouais, moi, c'est... On m'appelle dans le mouvement hip-hop Rimka. Mais le vrai nom, c'est Abdoulkarim Ba. Je viens de Sénégal, mais Sénégal, Guinéen, Sénégalais. Mon frère s'est retourné, lui il fait musique tradition, il m'a dit de venir faire avec lui musique tradition. Maintenant on est là, on s'accroche et on essaye de créer quelque chose qui va plaire tout le monde. Et on est au Maroc ici, ça va pas, ça va, ouais. Ça va pas. Et Inch'Allah, on a l'espoir, ouais, à travers la musique ou bien... Mais moi, ce que je l'ai dit, moi, je veux seulement passer. C'est pas comment passer pour aller en Espagne. Ouais, moi, mon frère, chaque fois, il me dit, non, petit, il ne faut pas dire ça. Tu peux avoir beaucoup ici. Moi, je l'ai dit, moi, je veux seulement faire tout pour rentrer en Espagne pour... Même s'il n'y a rien là-bas, mais être là-bas, c'est plus mieux que d'être ici et tu ne peux pas aider la famille, tu ne peux pas faire comme ça, tu vois. Mais vous priez pour moi pour que je rentre en Europe.
Oui, on espère que des gens nous voient sur MTV. Ah oui, sur MTV America, ouais. Ouais, ouais, on souhaite ça beaucoup.
On a entendu tout à l'heure Mamadou qui rêvait de musique. Eux aussi, à l'instant, c'est un rêve fréquent que vous avez croisé souvent à Tanger.
À Tanger, mais partout finalement. Aujourd'hui, les jeunes gens, ils veulent tous être des stars à Star Academy, devenir des chanteurs, des gens connus.
Mais que ce soit ici ou là-bas, quoi, c'est vrai. Et ici, nous, quand on voit des images du Sud, on pourrait se dire ah, les belles plages d'Afrique, du Sud, mais on peut y aller. Depuis là-bas, ben, on va voir les séries, la télévision, et on peut pas y aller, et on peut pas devenir des stars, justement.
Mais il y a un double mouvement en fait dans cette question migratoire, parce que d'un côté ils sont très réalistes et ils espèrent trouver un vrai travail pour pouvoir envoyer de l'argent à leur famille, à leur ville, village. Et de l'autre côté, il y a l'aspect conte de fées, mais qui est peut-être celui que on a tous finalement quelque part en nous, c'est de se réaliser dans ce qu'on aime réellement. Donc oui, l'Europe porte tous ses espoirs. Et bah, hélas, l'Europe, elle a sa réalité aussi.
Et sa réalité qui se resserre, puisque l'Europe est de plus en plus dure avec ses migrants.
Oui, tout le système de sécurité pour éviter que des migrants arrivent sur les rivages européens s'est renforcé. Donc il y a Frontex, qui a un système à la fois de sécurité, donc de grillage, de radar, mais aussi une police finalement européenne qui vérifie que sur la mer, il n'y a pas des petites embarcations qui essayent d'aborder.
On arrive à avoir une analyse dans les chiffres. Est-ce que ça évolue? Est-ce qu'il y a de plus en plus de monde, de moins en moins? Est-ce qu'on a des chiffres un peu précis?
Alors moi, j'aurais envie de dire par rapport au détroit de Gibraltar, c'est 14 kilomètres où les migrants traversent seulement quand le temps est mauvais. Hier, Jean-Olivier parlait du fait qu'un jour, si on faisait un pont entre le Maroc et l'Espagne, il n'y aurait bientôt plus aucun Marocain au Maroc. D'autres personnes disent que le nombre de noyés tentant de traverser le détroit de Gibraltar formeront bientôt par leurs ossements un pont qui permettra également de passer les pieds à sec.
Frédéric Chauffat, si on essaie, avant de se quitter, d'avoir un mot comme ça pour exprimer Tanger, vous en trouvez un?
Tanger a cette réputation de s'appeler Danger-Tanger ou Tanger-Danger. Or, c'est maintenant vraiment quand même une ville très lumineuse et très polyculturelle.
Et très libre. Pour une ville justement du Maghreb, c'est une ville où on se sent très libre. Les femmes sont très libres, les gens dans la rue sont très libres et on sent toujours ce multiculturalisme, ce contraste en fait entre plusieurs cultures qui est là, qui est vivant, qui est vibrant. Et il y a quand même quelque chose d'exaltant qui émane de Tanger.
J'aurai les yeux des marées bleues et le visage du temps pluvieux. J'aurai le cœur sur un nuage, passerai ma vie en décalage. J'aurai la tête sur l'oreiller, à peine posé les plumes au pied. J'abandonnerai mon âme d'avant et chercherai celle au présent. À regarder plus loin qu'un avenir prisonnier en vain, marquer son nom au bas des pages, laisser des traces au passage. Mais si le ciel sur nous s'écroule, qu'on prenne les marches ou qu'on déboule, j'arriverai toujours à tenir tête, même si j'en ai l'air bête. Tourne encore. Sans peine sur les eaux, mettrai la nuit au tombeau. Que je sois seule, que je sois folle, que je ris bien ou que je grogne, il y aura toujours sur ma peau blanche mes détours et absences.
C'est Salomé Leclerc, la dernière chanson choisie par notre programmateur François Piton. Vos commentaires, vos suggestions, vos compliments, vos reproches, vous pouvez les inscrire sur notre site, sur internet, rts.ch/détour. Merci à Gilles Ozaman qui a réalisé l'émission en direct. Les reportages étaient concoctés par Rodolphe Beauchaud. L'assistante de l'émission, c'est Stéphanie Gauchy. Et vous avez rendez-vous sous peu avec Mélanie Croubalian qui accueille tout à l'heure, qui accueillera tout à l'heure après les informations, Philippe Yenada pour son dernier livre. Dans ce dernier livre, il raconte un drôle de gangster, Soulac, à suivre donc dès la fin des informations. Restez à l'écoute bien sûr de la première. Il est 14h.